Mais avant de commencer, je voudrais encore dire une chose. Un frère que nous aimons beaucoup m'a dit ceci, qu'il fait toujours des cauchemars terribles pendant toutes les nuits dans son sommeil depuis des années. Et il dit, s'il vous plaît, priez pour moi. Je ne comprends pas. Je n'en peux plus. Donc, c'est vrai qu'il y a des personnes qui viennent ici et qui n'en pouvaient plus. Bien, nous voudrions qu'ils repartent avec l'assurance que vous avez ce frère sur votre cœur. Et on a parlé de la mort tout à l'heure. Et je pense que j'ai été bien conduit en suivant ce que le Seigneur m'avait montré ce matin, que je devais laisser libre cette matinée pour que les gens puissent s'exprimer. Je sais que peut-être que ça n'allait pas plaire à tout le monde, mais moi je dois obéir à mon maître, j'ai un patron. Alors, je crois que c'était bien nécessaire et que nous ne voulons pas être sous la servitude d'un certain programme, bien sûr. Ce programme, nous le préparons dans la prière, mais le Seigneur nous arrête et puis nous de la liberté. Et avant de reprendre nos lectures bibliques jusqu'à midi, moins le quart, je voudrais que nous ayons pensé pour ce frère depuis tant d'années, comme il y en a d'autres qui ont souffert et qui pensaient qu'avec la mort qui délivrait, mais le Seigneur leur a montré que la mort ne fait pas partie de l'espérance chrétienne. Et maintenant, alors je dirais, quel est le verset que nous pourrions prendre ensemble pour notre frère au sujet de ces nuits terribles dont il souffre depuis des années, de ses cauchemars, à un tel point que, en s'endormant même, il soupire après le moment du réveil. Hein. Parce qu'une fois qu'il est réveillé, ça disparaît. Alors, est-ce que vous avez un verset dans l'Écriture que nous pourrions rappeler au Seigneur pour aller à lui avec cette parole? Je vais vous en lire un ou deux. D'abord, ce verset que j'ai souvent cité ici, au psaume 126e. Non, 127e. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, verset 2, vous levez-vous matin et vous couchez-vous tard et mangez ou le pain de la douleur. Il en donne au temps à ses bien-aimés dans leur sommeil. Bien, nous voulons lui rappeler cela. Tu as dit que tu en donnais autant à tes bien-aimés dans leur sommeil. Et au sujet de ce sommeil, au psaume 3, nous lisons ceci. Verset 5 du psaume 3. Ou je dirais depuis le verset 4. Ô Éternel, tu es mon bouclier. Et nous savons que le Seigneur est le bouclier de ce frère. Tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Tu l'as dit, Seigneur. Prenez le psaume 4, oui. Je vois qu'il y en a qui ont cherché déjà, et pourtant j'en avais pas parlé. Verset 4. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Et puis, au verset 9, je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Il y a d'autres passages encore, mais nous ne voulons pas les citer tous. Oui. Qu'est-ce que nous avons vu avant? Lu ou vu? Parce que ça, c'est très important. Alors, c'est le Seigneur qui saura montrer s'il y a quelque chose. Mais ce que nous lui disons à cause de ses compassions infinies et de sa miséricorde, nous lui demandons de nous répondre. Ô Dieu, nous te prions pour Philippe et nous te demandons que, dans ta grâce, tu lui donnes cette libération de ses cauchemars, car ce n'est pas ta pensée, ce n'est pas toi qui veux le troubler, car nous connaissons ton cœur et ton amour. Alors, au nom de Jésus, nous te demandons de paralyser cette puissance de Satan qui voudrait le détruire dans son sommeil. Car tu nous as donné le sommeil pour nous restaurer. Et nous te remercions parce que tu es aussi le Seigneur du sommeil. Et tu peux nous donner, nous n'avons pas à te demander des heures, mais ce qui est nécessaire pour notre repos et que nous soyons recréés dans notre sommeil aussi. Et que dès le matin, nous puissions avoir un témoignage que nous avons été aussi bien avec toi dans la nuit que dans la journée. Nous comptons sur toi et nous te mettons à l'épreuve. Tu l'as dit, mettez-moi à l'épreuve. Eh bien, nous te rappelons cette parole. Et nous te disons merci de nous avoir entendus et de nous avoir exaucés. Et quant aux autres amis qui ont touché à ces choses occultes, nous voulons encore une fois te demander qu'il y ait une libération totale et le rejet complet de toutes ces choses. Car tu nous as inspiré, tu nous as dit que c'est à cause de toutes ces choses que tu as fait venir le désastre sur Canaan, comme aussi sur l'Égypte. C'est ce qu'ils pratiquaient. Et tu avertis Israël que s'ils font les mêmes choses, ils n'auront pas de bénédiction. Mais tu nous as rappelé aussi ce combat qu'a eu Jacob avec Abraham et qui a pu, Jacob avec le Seigneur, et qui a pu lui dire, je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni. Et il le bénit là. Qu'il en soit ainsi aujourd'hui pour nos deux frères. Nous te le demandons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, mes amis, oui. vous aviez à lire le chapitre premier de l'Apocalypse. Et la seule question qui était posée, c'est celle qui s'arrête au verset 5 du chapitre 1er et qui demandait si vous pouviez faire vôtre ce verset. Nous allons le lire. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Alors il est question là d'une béatitude pour celui qui lit, mais pas seulement qui lit, mais qui comprenne ou qui entendent les paroles de la prophétie, ce que Dieu révèle, et qui gardent les choses qui y sont écrites, c'est-à-dire qui les mettent en pratique. Car le temps est proche. Quel temps? Le temps de son retour. Jean aux sept églises qui sont en Asie, quelle que soit l'église à laquelle vous appartenez, le Seigneur a un message pour vous. La première chose qu'il vous dit, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient, qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant le trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. Et la parole que je vous demandais, si vous étiez d'accord avec cela, à celui qui nous aime, croyez-vous que Dieu vous aime, qu'il vous soyez ici, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés, qui nous délivrera ou qui nous a délivrés? Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. C'est par sa vie donnée. Hein. Notre salut n'a pas été gratuit pour lui. On parle toujours du salut gratuit. Mais il a payé le prix. Et le prix, c'était pas de l'or et de l'argent, c'était sa propre vie. Tout ce qu'il avait abandonné. Il est venu ici-bas comme un pauvre, mais il avait encore un corps et il a donné son corps. À celui qui a fait de nous. Est-ce que c'est déjà fait? Oui. Croyez-le, c'est lui qui le dit. À celui qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et on espère que cet après-midi, dans le culte, nous aurons un culte de sacrificateurs qui adorent. À lui soit la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. On parle à Dieu, on parle à lui, de ce qu'il est. De ce qu'on a vu en lui. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. C'est son retour en gloire. Mais avant
de revenir sur la terre, il va venir, lisons-nous dans un autre passage, d'abord sur les nuées du ciel. Et qu'est-ce qu'il fait? Il attire à lui tous ceux qu'il aime et qu'il croit. En un instant, il les transforme à son image et à sa ressemblance. C'est du ciel que nous attendons le Seigneur Jésus comme Sauveur, lisons-nous dans Philippiens 3, verset 20, qui transformera le corps de notre abaissement, le corps de notre humiliation, ce corps qui a connu toutes sortes de choses, il sera transformé en sa ressemblance, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir même toutes choses. Et à ce moment-là, ou même un instant avant, un clin d'œil avant, les morts en Christ, ceux qui sont morts dans la foi, que nous avons perdus, ils sont ressuscités premièrement. Et nous les vivants, qui demeurons, qui seront vivants à l'avenue du Seigneur, il y a une génération qui ne passera pas par la mort, nous sommes enlevés avec eux, avec les morts en Christ, dans les nuées. On n'a pas besoin de passer par le Cap Canaveral. Là où vous êtes, et quel que soit votre âge, mais est-ce que vous ne voudriez pas rester quand même sur la terre? Si notre espérance n'est pas la mort, notre espérance c'est la venue du Seigneur Jésus. Parce qu'il vient d'abord pour prendre les siens, avant de revenir avec les siens. Il y a deux étapes dans le retour du Seigneur. C'est absolument clair, sinon vous devez déchirer certaines pages de l'Écriture. Et moi, ce qui m'afflige beaucoup, c'est qu'il y a des théologiens qui étaient bibliques autrefois, et qui tout d'un coup, maintenant, parce que il y a l'histoire de l'an 2000, eh bien, voilà qu'on commence à nier tout cela et à prendre une autre théologie en disant on ne peut pas attendre le Seigneur n'importe quand. À tout instant, à tout moment, comme le faisait l'Église primitive, voici, il vient sur les nuées du ciel. Et tout œil le verra. Alors à ce moment-là, tout œil le verra. Parce que le Christ n'apparaîtra que complet. Le Christ total. Et le Christ total, c'est la tête et tous les membres du corps réunis. Alors, pour que tous les membres du corps soient unis à la tête, il faut d'abord qu'il fasse ses opérations. Nous ne nous endormirons pas tous, dit l'Écriture dans 1 Thessaloniciens, mais nous serons tous changés. 1 Corinthiens 15 d'abord, puis après 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui est par avec vous à la tribulation, au royaume, et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. On l'avait exilé. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et nous sommes au jour du Seigneur, et bien que nous nous laissions saisir par l'Esprit. J'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, envoie-le aux sept églises, parce que c'est un message dont tous ont besoin, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or, et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un. Oh, mes amis, c'est une personne qu'il voit, quelqu'un, qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la neige, laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Et je pensais l'autre jour, quand le soleil se lève, qu'est-ce qui disparaît? La lune. N'est-ce pas? On ne voit plus la lune, c'est le soleil. L'Église disparaît. Elle n'est plus là. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. Est-ce que nous nous sommes adressés aux vivants pendant que nous étions ici? Et pour notre frère? Est-ce que nos frères croient que nous nous sommes adressés aux vivants? J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Encore dans ces jours. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui doit arriver ensuite. Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans la main droite et les sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont des anges, les sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. Je relis le verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort, voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je vous ai dit hier matin que le Seigneur m'avait montré clairement que ce n'était pas moi qui devais vous parler, mais que je devais laisser parler le Seigneur en lisant et en écoutant avec vous ces trois chapitres du sermon sur la montagne. Et je ne crois pas que le Seigneur m'a trompé. C'était cette parole que vous deviez d'abord entendre. Quant à ce matin, ce que le Seigneur m'a montré, c'est que au lieu de vous renvoyer dans vos chambres et de vous demander de faire des ateliers, que je devais vous donner la possibilité de vous exprimer et de partager ce matin ce qui était dans vos cœurs, afin qu'on n'ait pas simplement dans le culte des partages, comme ça se fait de plus en plus dans une foule d'églises, évangéliques même, où on parle de louanges au Seigneur, mais où on raconte des faits. Eh bien, ces faits, le Seigneur m'a montré que vous deviez les dire maintenant, afin que nous ayons un après-midi de renouvellement pour que le culte connaisse vraiment ce qu'est l'adoration, où on ne prie que pour dire au Seigneur ce qu'il est, ce que nous pensons de lui, ce qu'il est vraiment pour nous. Nous l'adorons comme on adore au ciel, malgré nos mots qui expriment si peu encore toutes nos pensées. Nous pouvons l'adorer soit par un texte biblique qui célèbre la gloire et la puissance du Seigneur, ou alors comme notre chère Marie n'ait pas peur de prononcer son nom, la mère bénie de notre Seigneur, qui rencontre Élisabeth et dont le cœur éclate et qui célèbre qui? Son Seigneur. De quelle manière? Par le Magnificat, où elle exalte son Dieu, qui a abaissé les yeux sur sa servante. Son cœur est rempli. Et au fond, voyez-vous, l'adoration, c'est comme un moment de dépassement, où tout ce qui est dans notre cœur, mais il faut que ces choses soient dans notre cœur, monte par le Saint-Esprit sur nos lèvres et exprime ce que nous ressentons pour Dieu. Et alors évidemment aussi dans l'adoration il y a le silence. Je me souviens de temps où j'étais à Jérusalem avec des personnes qui venaient de différentes églises, il y avait des catholiques, il y avait des prêtres, et nous étions à genoux. Et puis ça montait au Seigneur. On ne savait plus de quelle église on était, mais on était devant le Seigneur, devant Dieu. Et nous le célébrions, et nous arrivions à nous souvenir de lui, de Jésus, le don du Père. Il nous avait été donné. Évidemment, vous pouvez vous exprimer par un cantique, mais il faut s'y veiller à ne pas remplir les silences par des cantiques. Une succession de cantiques, à peine qu'on a fini un cantique, quelqu'un dit qu'un autre cantique, qui n'a rien à faire avec le premier que nous avons chanté. Il doit y avoir dans l'adoration une ligne qui se crée par le Saint-Esprit. C'est le grand risque de la liberté de l'esprit. Parce que si c'est la chair qui s'en mêle, eh bien, c'est un désastre. Vous aimez mieux alors une liturgie, vous aimez mieux un pasteur, un conducteur, un prêtre, tout ce que vous voulez. Mais si vraiment vous pouviez faire confiance au Seigneur, et que nous soyons devant lui, en disant maintenant, c'est le Saint-Esprit qui va nous diriger, nous aurions, si c'est la dernière retraite, nous aurions une bénédiction qui se prolongerait dans tous nos foyers et dans toutes nos communautés. Et ça vaudrait la peine. toutes nos pensées, cet après-midi, devraient être captivées par la personne du Père que son Fils bien-aimé nous a révélé, et que par le Saint-Esprit, la louange monte sur nos lèvres. Et voyez-vous, quand on adore vraiment, on ne tombe pas en arrière. Parce que quand vous tombez en arrière, vous vous cassez la nuque. Ce n'est pas une espérance. Même si vous avez espéré mourir, ce n'est pas la pensée de Dieu. On ne tombe pas sur la nuque. On ne tombe pas en arrière. C'est le vieil Élie qui n'avait pas enseigné ses fils qui a eu une fin pareille dans l'Écriture. Alors, sachons discerner ce que Dieu veut. On se prosterne devant le Seigneur. Abraham se prosternait devant le Seigneur. Vous pouvez reprendre toute la vie d'Abraham et vous verrez ce qu'il faisait. Il se prosternait devant le Seigneur. Et vous savez, il y a des moments où vraiment nous sentons ce besoin de nous prosterner devant lui. D'être à ses pieds, non pas à sa droite ou à sa gauche. On a vu qu'on ne pouvait pas. Cela est destiné à ceux que le Seigneur aura choisi par son Père pour cela. Mais à ses pieds, nous avons toute la place. Et vous n'aurez pas besoin qu'on amène des matelas, on pourrait en demander aux sœurs, pour que vous ne vous cassiez rien en tombant. Et c'est drôle que pour des singeries de ce genre, on fasse des avions spéciaux depuis l'Europe et qu'on vienne empoisonner l'Europe par ce qui se passe à Toronto ou ailleurs. Nous voulons être sérieux avec notre Dieu. Car nous le prenons au sérieux. Et nous demandons à Dieu de vous préparer, de nous préparer pour un culte qui soit à sa louange et à sa gloire. Car il est digne d'être adoré. C'est ce que son Fils était venu chercher pour son Père. Le Père cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Il y aura la table du Seigneur au milieu de nous. Je voudrais encore le dire pour être tout à fait franc. C'est Jésus qui a dit: faites ceci en mémoire de moi. Donc, ceux qui peuvent s'approcher de la table du Seigneur, qui sont-ils? Ce sont ceux qui l'ont reçu et en qui il habite. Ce n'est pas nous qui pouvons vous inviter. Nous sommes nous-mêmes invités par celui qui dit, voici, tout est prêt. Mais alors peut-être que nous nous disons, mais est-ce que je suis digne? Si vous attendiez d'être digne, d'avoir le sentiment que vous êtes digne, vous ne prendrez jamais la Sainte Cène. Mais est-ce que celui qui vous invite n'est pas digne que vous lui répondiez? Et il vous dit qu'il a tout accompli pour enlever même votre culpabilité. L'un d'entre vous me parlait qu'il sentait encore cette culpabilité. Mais je voudrais vous dire, la culpabilité, le Seigneur l'a prise avec vos péchés. et ne veut pas que vous restiez sous cette impression d'une culpabilité. Il vous libère de tout. Nous aurons l'occasion cet après-midi, dans le message sur Balaam, de souligner ce fait. Comment Dieu vous voit. Et si vous saviez comment Dieu vous voit, celui qui vous aime, comment il vous voit, vous seriez heureux de pouvoir vous avancer, non pas en vous glorifiant, mais dans l'humilité, pour recevoir le pain et le vin de la main du Seigneur. Mais je le dis, évidemment, ceux qui veulent absolument suivre les principes de l'Église romaine, eh bien, l'Église romaine défend et fidèle de participer à une Eucharistie qui ne serait pas célébrée par un prêtre qui était consacré par un évêque. Alors, je ne suis pas un prêtre consacré par un évêque, mais j'espère simplement être un humble serviteur de Dieu consacré par deux mains percées. Dieu notre Père, encore une fois ce matin, nous réclamons ta grâce pour ces dernières heures que nous passons ensemble. Et nous te demandons de préparer ce culte et que nous puissions être vrais dans l'amour que nous désirons te témoigner, toi qui nous as aimés le premier et qui est allé jusqu'à la mort et qui a pu dire, en instituant ces signes visibles de ton passage sur la terre, faites ceci en mémoire de moi. Que nous soyons préparés et que nous venions avec des cœurs remplis d'actions de grâce. Et surtout, qui parle de la relation que nous pouvons avoir avec toi, et toi avec nous, et que nous sachions ce que c'est que demeurer dans ton amour cet après-midi. Pour la seule gloire du Père, au nom du Fils, et par la toute-puissance du Saint-Esprit. Amen. Alors nous ouvrons maintenant la parole dans le livre des Nombres, où le Seigneur a arrêté mes pensées sur des vérités remarquables. Même si nous allons trouver un homme prophète parmi les païens, mais qui avait une grande connaissance de tout ce qui concernait Israël, et que nous appelons un prophète sans amour. Il était prophète, il avait une réputation au loin, il habitait sur l'Euphrate, c'est le pays de qui? De Saddam Hussein, non? Et c'est de l'actualité en quelque sorte. Hein. Et on le faisait venir à 24 journées de là pour maudire un peuple qui amenait la terreur, la frayeur dans toutes ses contrées. Et ce n'était pas un ouï-dire, ce peuple. On connaissait pas mal de son histoire. Il avait été en Égypte pendant plus de 400 ans, et puis il en était sorti après avoir été opprimé comme des esclaves sous la conduite de Moïse. Il était sorti de cette puissance du pharaon et acculé en face de la mer, ayant derrière eux les troupes du pharaon qui se repentaient de les avoir laissés partir, eh bien tout à coup, on avait vu la mer s'ouvrir, et tout cela était raconté, tout cela était connu, même s'il n'y avait pas la télévision. Ces choses étaient bien connues. Rab, la prostituée dans sa maison, savait ces choses. Elle avait été très impressionnée, elle qui habitait Jéricho. On connaissait les délivrances que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait accordées à son peuple. Comment ce peuple était entré dans ce passage au travers des eaux séparées de la mer des joncs, de la mer rouge, et comment Moïse avait ensuite conduit pendant 40 années dans le désert ce peuple. Et maintenant, après 40 ans, ils arrivaient dans ce pays tout proche de Canaan où ils devaient s'installer. Mais il y avait là des peuples qu'ils rencontraient. On leur offrait la paix, mais ne voulant pas la paix, eh bien, ils étaient défaits, détruits, et le roi de Moab a eu peur, très peur. Il était effrayé, et il s'est demandé comment il pouvait empêcher ce peuple d'aller plus loin, comment il pourrait avoir la victoire. Alors il a pensé, si on pouvait maudire ce peuple, parce qu'on savait bien que ce peuple avait eu beaucoup de malheurs à cause de ses péchés en traversant le désert. Et si on pouvait, au fond, rappeler au Dieu d'Israël ce qu'avait été ce peuple, et si on pouvait le maudire, eh bien, probablement qu'il pourrait être battu. Alors, ce Balak, roi de Moab, a voulu louer un prophète pour maudire le peuple. Il envoie donc une délégation jusque chez Balaam pour qu'il vienne maudire le peuple. Vous avez ce récit, je ne vais pas les lire, mais je vous demande de lire ces textes. C'est chapitre 22 des Nombres, chapitre 23 et chapitre 24, et vous pouvez même aller jusqu'au 25, c'est un des passages les plus beaux au point de vue littéraire que vous pouvez trouver dans l'Ancien Testament. Et nous allons essayer d'en faire une application pour nous, et qui sommes aussi en route, non pas vers la Canaan terrestre, mais vers la Canaan céleste. Et nous savons que nous avons aussi des ennemis célestes, des ennemis puissants pour essayer de nous arrêter, pour essayer de nous vaincre. Et il serait bien facile de rappeler toutes nos défaillances. Il serait bien facile de rappeler à Dieu tous nos manquements, tous nos péchés depuis notre conversion, de sorte qu'au fond, personne ne se sentirait libre de prendre la scène, personne ne se sentirait libre de s'approcher du Seigneur si nous ne connaissions pas son amour et sa miséricorde. Nous nous dirions, nous ne sommes pas dignes. Est-ce que vous êtes sûr d'arriver au bout de la course? Ce n'était plus Moïse qui dirigeait le peuple. Il était mort. Mais le Dieu de Moïse n'était pas mort. Et il avait suscité le jeune Josué, jeune quand il partait du pays d'Égypte, il l'avait suscité pour prendre la succession de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Mais voilà, il sera avec Josué, et Josué expérimentera que la puissance qu'avait Moïse, il l'a aussi lui, car si ce n'est pas la mer Rouge qu'il traversera, c'est quel fleuve ? Le Jourdain. Et le Jourdain aussi se séparera, et le peuple tout près du pays de Canaan passera à pied sec. Mais je reviens, vous lirez ce récit de Balaam. Je lis au chapitre 22e juste quelques versets. Le roi de Moab dit aux anciens de Madian, cette assemblée va brouter tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure de la campagne. Balak, fils de Tsiphor, était roi de Moab en ce temps-là. Il envoya des messagers, verset 5, auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, sa patrie, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple qui est sorti d'Égypte, qui couvre la surface de la terre et qui habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, donc vous voyez qu'il avait une réputation, et que celui que tu maudis sera maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian s'en allèrent en emportant des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Pourtant, c'était un homme qui connaissait la volonté de Dieu au sujet du peuple d'Israël. Mais il pense que peut-être le Seigneur va lui donner la permission d'aller. Pourquoi ? Parce que quand on est prophète, on n'a pas toujours de grands biens, et il sait qu'on lui apporte une offrande pour qu'il vienne avec ses hommes envoyés par Balak. Alors, il les reçoit chez lui, ce qu'il n'avait pas à faire. Mais, il va faire une nuit de prière. Vous connaissez ça. Verset 9. Les chefs de Moab, donc, restèrent chez Balaam. Dieu vint vers Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Comme si Dieu ne le savait pas. Mais il veut toucher la conscience de Balaam. Qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tsiphor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple qui est sorti d'Égypte et qui couvre la surface de la terre, viens donc, voule pour moi à la malédiction. Peut-être pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras pas avec eux. Vous voyez, Dieu parle une fois, deux fois. Il est clair, il confirme la volonté que Balaam connaît déjà. Tu n'iras pas avec eux. Tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Que fait Balaam? Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les chefs de Moab se levèrent et revinrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Alors que fait Balak? Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Voyez la politique. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Tsiphor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, voue-moi ce peuple à la malédiction. » Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, « Quand Balak me donnerait plein la maison d'argent et d'or, je ne pourrais rien faire de petit ni de grand contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. » Donc, il connaît bien qui est Dieu. Hein. Et il sait très bien qu'il ne pourrait rien faire. Mais quand même, il est inquiet de ne pas recevoir cet argent qu'on vient lui donner. Et ses honneurs. Alors, verset 21. Non, verset 19. Hein. « Maintenant, je vous prie, vous aussi restez ici cette nuit. Je saurai ce que l'Éternel me dira encore. » Littéralement, on verra si Dieu a quelque chose de plus à me dire. Et c'est ce qui nous arrive à nous autres. Hein. Bien souvent, on a demandé à Dieu quelque chose, il nous a précisé que ce n'était pas sa volonté, puis on veut faire une nuit de prière pour savoir s'il a quelque chose de plus à nous dire. Dieu parle une fois, deux fois, et l'on y prend pas garde, est-il écrit dans Job. Alors, Dieu vint à Balaam. Vous voyez, la patience de Dieu et sa grâce. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu exécuteras la parole que je te dirai. » Est-ce que Dieu se contredit? Non, mais il a vu ce que le cœur de Balaam voulait. Alors, tu veux y aller? Et c'est bien ce qui nous arrive, nous aussi. On veut faire notre volonté quand même, ben vas-y. Pourtant, on connaît que ce n'était pas le chemin. Et alors, on s'embarque. Verset 21. Balaam se leva le matin, sella son ânesse, et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti, et un ange de l'Éternel se tint debout sur le chemin pour s'opposer à lui. Balaam était monté sur son ânesse, et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, placé sur le chemin, son épée nue dans la main. L'ânesse se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se tint dans un sentier entre les vignes. Il y avait une clôture d'un côté, une clôture de l'autre. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se tint dans un endroit resserré où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma. Il frappa l'ânesse avec son bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà ?» Trois fois. Les animaux se souviennent du nombre de fois. Ils savent compter, ne vous en faites pas. Balaam répondit à l'ânesse. Ça n'a pas l'air tellement étonné. Hein. C'est parce que tu m'as contrarié. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. S'il y avait un ange qui avait l'épée à la main pour le tuer, lui, il ne voit rien. Lui ne voit rien, mais l'ânesse a vu. Elle l'a épargné. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude d'agir ainsi avec toi? Il répondit non, la seule vérité qu'il a dit. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Il vit l'ange de l'Éternel placé sur le chemin, son épée nue dans la main. Il s'inclina. Il n'est pas tombé en arrière. Il s'inclina et se prosterna face contre terre. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse ?» Déjà trois fois, les anges aussi savent compter. « Voici que je suis sorti pour m'opposer à toi, car ce chemin qui est en face mène au précipice ou à la perdition. L'ânesse m'a vu et s'est détournée de moi déjà trois fois. Si elle ne s'était pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché. Enfin, il a compris quelque chose. J'ai péché. Car je ne savais pas que tu étais placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si j'agis mal, vous rendez-vous compte que c'est bien notre cœur, on n'est pas encore convaincu tout à fait qu'on est dans le mauvais chemin. Si j'agis mal à tes yeux, je m'en retournerai. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec ces hommes. Cependant, tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam s'en alla avec les princes de Balak. Balak apprit que Balaam était arrivé. Il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab, qui est sur la frontière de l'Arnon, au point extrême de la frontière. Balak dit à Balaam, « N'ai-je pas envoyé auprès de toi des gens pour t'appeler ? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi ? Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur ?» Balaam dit à Balak, « Maintenant que je suis venu vers toi, pourrais-je dire quoi que ce soit ? Je dirai la parole que Dieu mettra dans ma bouche. » Balaam alla vers Balak et ils arrivèrent à Kiriath Utso. Balak sacrifia du gros et du menu bétail et il en envoya à Balaam et au chef qui était avec lui. Le matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Bamoth Baal, d'où il vit une partie du peuple. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici cet autel, prépare-moi ici sept taureaux, sept béliers. Balak, puisque Balaam avait dit, Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi debout près de ton holocauste et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et je t'annoncerai la parole qu'il me révélera. Il alla sur un sommet, Dieu vint au-devant de Balaam, qui lui dit, « J'ai dressé cet autel, et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. » L'Éternel mit une parole dans la bouche de Balaam et dit, « Retourne vers Balak, et tu parleras ainsi. » Balaam retourna vers Balak, qui se tenait debout près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça sa sentence et dit, « Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Est. » Vous voyez, le faux prophète, il descend toujours. « Viens, maudis-moi Jacob, viens, répands ta fureur contre Israël. Comment vouerai-je à la malédiction, ce que Dieu n'a pas maudit. » Il n'y a personne ici qui est maudit. Comment répandrai-je ma fureur quand l'Éternel n'est pas en fureur? Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. Voici un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. C'est bien Israël, hein, qui ne fait pas partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort de ceux qui sont droits et que ma fin soit semblable à la leur. Voilà ce que Dieu fait dans le cœur de ce prophète et ce qu'il doit dire. Il espère que sa fin sera semblable à celle d'Israël. Alors Balak dit à Balaam, « Que m'as-tu fait? Je t'ai fait venir pour vouer mes ennemis à la malédiction, et voici que tu les combles de bénédictions. » Il répondit en ces termes, « N'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche ?» Balak lui dit, « Viens donc avec moi dans un autre endroit. » Peut-être que si vous voyez Israël depuis un autre endroit, vous pourrez le maudire, hein? C'est ce qu'il pense. Tu le verras d'un autre endroit. Tu n'en verras qu'une partie, tu ne verras pas la totalité. Et de là, voue-le pour moi à la malédiction. Il le mena au champ de Tsophim, sur le sommet du Pisga. Il bâtit cet autel, offrit un holocauste, un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, « Tiens-toi debout ici, près de ton holocauste, et moi j'irai à la rencontre de Dieu. » L'Éternel vint au-devant de Balaam. Il mit une parole dans sa bouche et dit, « Retourne vers Balak et tu parleras ainsi. » Balaam retourna vers Balak, qui se tenait debout près de son holocauste, et les princes de Moab avec lui. Balak lui dit, « Qu'est-ce que l'Éternel a dit ?» Balaam prononça sa sentence et dit, « Lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tsiphor. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'Adam pour avoir du regret. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le maintiendra-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Dieu a béni, je ne le révoquerai pas. Il n'aperçoit pas d'injustice en Jacob. Oh, si vous pouviez vous approprier cette parole. Il n'aperçoit pas d'injustice dans votre cœur. Il ne voit rien de pénible en Israël, et pourtant, que l'injustice avait manifesté Israël à travers le désert. Que de choses pénibles Dieu avait pu voir dans ce peuple. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il fait entendre une clameur royale. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'occultisme ne peut rien contre Jacob. Est-ce que vous le prenez par la foi? Vous qui avez peut-être trafiqué avec l'occultisme, l'occultisme ne peut rien contre Jacob. Voilà ce que nous dit la parole. Je sais que beaucoup maintenant prétendent pouvoir chasser eux-mêmes les démons, etc. Ils en font leur spécialité. Mais nous avons la parole qui nous révèle qu'au fond, l'occultisme ne peut rien contre Jacob quand on l'a confessé, quand on s'en est séparé. Ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'action de Dieu? Ou, selon une autre traduction, qu'est-ce que Dieu a fait? Mais qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il puisse parler ainsi? C'est pas nous qui avons fait quelque chose, mais Dieu a fait une œuvre telle, une action telle, que nous sommes libérés de tous nos liens passés. Voici un peuple qui se lève comme une lionne, elle a la force, et se dresse comme un lion. Il ne se couche pas jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Voyez-vous, ce serait intéressant, du reste nous l'avons fait ailleurs, d'étudier les animaux à travers la Bible et ce que Dieu fait avec les animaux. Il choisit un coq pour réveiller la conscience de l'apôtre Pierre par son chant du coq. Le coq chanta. Voilà Pierre qui est par terre aussi. Et puis ici, une ânesse qui parle. Vous pensez que c'est impossible? C'est Dieu qui a créé l'ânesse. Il peut bien la faire parler. Verset 21. Balak dit à Balaam, si tu ne le voues pas à la malédiction, du moins ne le comble pas de bénédiction. Pas fou. Balaam répondit en ces termes à Balak, ne t'ai-je pas parlé ainsi, je ferai tout ce que l'Éternel dira. Balak dit à Balaam, viens donc, je te mènerai dans un autre endroit. Vous voyez, ça je trouve extraordinaire. Hein. On mène Balaam dans différents endroits pour qu'il voit tous les côtés au fond d'Israël. Et il y a certainement un côté où on pourra dire quelque chose hein, de mal. Eh bien, vous aussi vous êtes considérés de tous les côtés et vous verrez ce que l'Éternel pense de ceux qu'il a rachetés. Balaam dit à Balak, Balak dit à Balaam, viens donc. Je te mènerai dans un autre endroit. Peut-être que Dieu trouvera-t-il bon que de là tu voues le peuple pour moi à la malédiction. Balak mena Balaam au sommet du Péor. C'est toujours sur les sommets qu'il le conduit, hein, sur le versant qui fait face au désert. Balaam dit à Balak, bâtis-moi cet autel et prépare-moi sept taureaux et sept béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit, et il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël, et il n'alla pas, comme les autres fois, à la recherche de formules occultes, parce que c'est ce qu'il faisait, hein. Mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux, il vit Israël, campé selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça sa sentence et dit, oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme qui a l'œil clairvoyant, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme les torrents, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses seaux, et sa semence est fécondée par l'abondante eau. Son roi s'élève au-dessus d'Agag, et son royaume devient puissant. Dieu fait sortir d'Égypte, l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle, et c'est ce que je vous souhaite à tous en partant d'ici, que vous connaissiez pour vous la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui sont ses adversaires. Il brise leurs os et les blesse de ses flèches. Il s'accroupit, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Béni soit quiconque te bénira et maudit soit quiconque te maudira. La colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Balak frappa des mains et dit à Balaam, « C'est pour vous et mes ennemis à la malédiction que je t'ai appelé, et voici que déjà trois fois, et vous compterez les discours de Balaam chaque fois qu'il a vu Israël, voici déjà trois fois, tu les as comblés de bénédictions. Fuis maintenant, va-t'en chez toi. J'avais dit que je te rendrais des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. Balaam répondit à Balak, n'ai-je point parlé en ces termes au messager que tu m'as envoyé, quand Balak me donnerait plein sa maison d'argent et d'or, je ne pourrais prendre aucune initiative, ni en bien, ni en mal, contre l'ordre de l'Éternel, je répéterai ce qu'a dit l'Éternel. Il sait très bien qu'on ne peut pas lutter contre Dieu. Alors, mes amis, je répéterai ce qu'a dit l'Éternel. Et maintenant, je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'avertirai de ce que le peuple fera à ton peuple dans les temps à venir. Non seulement il n'a pas maudit Israël, mais il va avertir Balak de ce qui va arriver à son peuple. Balaam, c'est le quatrième discours. J'avais dit que je ne le dirais pas, mais le Seigneur me pousse à le lire, parce que peut-être que certains n'avaient pas lu ces chapitres. Alors comme ça, je suis sûr que vous l'aurez entendu, et que vous y reviendrez vous-même. Balaam prononça sa sentence, et dit, oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme qui a l'œil clairvoyant, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Il va annoncer l'étoile de Jacob. Ça va se passer des siècles plus tard, hein, mais il voit déjà cela, ce que les mages auront à voir. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il blesse les flancs de Moab. Il abat tous les fils de Seth. Il prend possession d'Édom. Il prend possession de Séir, ses ennemis. Israël est plein de vaillance. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Balaam vit Amalek. Il prononça sa sentence et dit, Amalek est la première des nations, mais en fin de compte, il ira à la perdition. Il vit les Kéniens. Il prononça sa sentence et dit, ton habitation est solide et ton nid posé sur le roc, mais Caïn sera consumé quand Assur t'emmènera captif. Il prononça sa sentence et dit, hélas, qui vivra après que Dieu l'aura établi? Mais les navires viendront de Kittim, c'est Chypre, ils humilieront Assur, ils humilieront Éder, et lui aussi ira à la perdition. Balaam se leva, s'en alla et retourna chez lui. Balak s'en alla aussi de son côté. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'avant de retourner chez lui, comme il voulait quand même l'argent de Balaam, de Balak, il lui a donné un conseil pour que Dieu maudisse. Ben, tu sais ce que tu as fait. Invite tes filles de Moab à venir coucher avec Israël. Et alors, c'est ce qu'il a fait, parce qu'il aimait l'argent. Et il a eu l'argent, mais il a eu aussi l'épée après. Israël demeurait à Kittim et le peuple se mit à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. C'est le conseil qu'il a donné. Il n'a pas pu maudire. Mais il dit, si tu fais ça, tu verras alors ce qui arrivera. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'accoupla avec Baal, Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, prends tous les chefs du peuple et fais-les pondre devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel
ne se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont accouplés à Baal-Péor. Et voici qu'un homme des Israélites vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse, pauvre Moïse. On amène une Madianite sous les yeux de Moïse. Et sous les yeux de toute la communauté des Israélites, tandis qu'ils pleuraient à l'entrée de la tente de la rencontre. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur, Aaron se leva du milieu de la communauté, prit une lance dans sa main et suivit l'homme d'Israël à l'intérieur de sa tente. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a percés tous les deux alors qu'ils faisaient l'amour. L'homme d'Israël ainsi que la femme furent percés au bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les Israélites. Il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. C'est quelque chose, hein? L'Éternel parla à Moïse et dit, « Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les Israélites parce qu'il a été animé de ma jalousie au milieu d'eux et je n'ai pas, dans ma jalousie, exterminé les Israélites. C'est pourquoi tu diras que je lui accorde une alliance de paix. » Et puis nous pourrions continuer et voir ce qui a été vraiment reproché à Balaam, qui lui-même a été tué au chapitre 31 du même livre. Quand les Israélites se sont avancés, verset 8, la fin du verset 8, ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Et au verset 15, Moïse dit aux hommes qui amenaient des gens de ce pays, « Avez-vous laissé en vie toutes ces femmes ?» Verset 10, « Ce sont elles qui sur la parole de Balaam, » vous voyez que ce qu'il a dit, hein, c'est vrai, « Ce sont elles qui sur la parole de Balaam ont entraîné les Israélites à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans la communauté de l'Éternel. » Voilà ce qu'avait fait Balaam. Et c'est pourquoi on peut lire encore dans le chapitre 24 de Josué, où il en est question, dans le chapitre 6 de Michée, mais dans le Nouveau Testament, dans la deuxième épître de Pierre, il est parlé de la voix de Balaam, cette voix qu'il a suivie, et puis aussi dans le chapitre 2 de l'Apocalypse, au verset 14, il est question de la doctrine de Balaam. Alors vous retrouvez tout cela dans le Nouveau Testament, et que dans l'Église aussi aujourd'hui, on retrouve la doctrine de Balaam. Et le Seigneur est contre cela, évidemment. Mais le Seigneur n'a qu'une envie, c'est de nous bénir. Mais sachons nous séparer et avoir les pensées de Phiné dans nos cœurs. Dans Apocalypse, j'ai dit, hein, merci. Mes yeux commencent à être fatigués. Mais j'ai contre toi, oui, à l'église de Pergame, certains griefs. Tu as des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Et toujours pour l'argent. Il enseignait à Balak à faire une sorte, en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. Ça, c'est ensemble. Voilà le secret. Voilà pourquoi je vous dis, ne lisez pas seulement des textes bibliques, des portions bibliques. Lisez la Bible depuis le commencement à la fin. C'est absolument nécessaire. Et vous aurez les réponses. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas continuer de lire vos portions bibliques, mais lisez la Bible depuis la première page à la dernière. Et la seule chose que je voudrais souligner maintenant, c'est au sujet de l'Église. L'Église a des manquements. Nous faisons partie de l'Église. Nous avons des lacunes. Et si le Seigneur regardait à cela, eh bien, personne ne pourrait s'approcher de sa table. Mais vous avez vu, on peut mener le prophète sans amour, regarder de toutes les hauteurs, un coin ou un autre, on ne trouve rien. Le Seigneur bénit et les couvre. Et puis, le prophète peut dire que tes tentes sont belles, ô Israël. Nous voyons l'Église maintenant qui monte du désert, s'appuyant sur son bien-aimé. Tant qu'on s'appuie sur son bien-aimé, tout va bien. Quelle que soit notre faiblesse, on reçoit sa force, on marche avec lui. Et à la fin de cette semaine, ce que nous savons, c'est que le Seigneur nous aime. Et c'était cela que je voulais vous laisser. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur ne voit pas vos fautes. Jésus n'est pas mort pour rien. Il est mort pour vos péchés. Et ils ont été ensevelis dans les profondeurs de la mer. Et s'il vous demande de vous souvenir de lui aujourd'hui, il vous dit que Dieu, lui, ne se souvient plus de vos péchés ni de vos iniquités, et qu'il va se présenter son Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, que vous puissiez vous approcher de la table quand nous aurons adoré dans ces dispositions de joie et de reconnaissance. Amen.